Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 5 avril 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'attaque contre Al-Aqsa montre la nature inhumaine d'Israël. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Amérique est plongée dans une spirale descendante, déclaration du leader de la révolution islamique d'Iran. Les ministres iraniens et saoudiens des affaires étrangères se rencontrent en Chine. Et puis des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et les forces israéliennes après que les soldats du régime ont attaqué des fidèles à la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Rots. Les condamnations affluent. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique a appelé les responsables à travailler dur pour dédollariser l'économie iranienne. L'ayatollah Seyed Ali Khamenei, se référant au fait que plusieurs pays ont décidé de dédollariser leur économie, a déclaré que cette initiative les a aidés à améliorer leur situation économique. Il a également appelé à des efforts pour freiner l'inflation galopante et stimuler la production nationale afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Il a ensuite conseillé aux autorités d'aider les producteurs à améliorer la qualité de leurs produits et à obtenir une plus grande part des marchés nationaux et étrangers. Le leader a en outre mis l'accent sur la nécessité de politiques économiques et financières transparentes et stables de la part des responsables gouvernementaux comme solution pour garantir la confiance des investisseurs. Évoquant la lutte contre la corruption comme le principal facteur de dynamisation de l'économie, l'ayatollah Khamenei a poursuivi que certains des pays qui avaient été sanctionnés et leur accès au système SWIFT avaient été coupés sont désormais dans une bien meilleure situation qu'avant les sanctions en retirant le dollar de leurs échanges commerciaux. Ailleurs dans ses remarques, le leader a souligné que le monde est confronté à un changement politique important, ce qui signifie que l'état de l'ordre mondial est en train de changer. Le dirigeant a noté que l'ordre mondial est en train de changer et que les adversaires de l'Iran sont en déclin. Réagissant aux évolutions israélo-palestiniennes, l'ayatollah Khamenei a également déclaré que même certains responsables israéliens ont admis que le régime de Tel Aviv est sur le point de s'effondrer. Il a également déclaré que les divisions politiques avaient plongé les États-Unis dans une spirale descendante, ajoutant que le pays ne cessait de s'affaiblir sous divers présidents, y compris sous Joe Biden. Le leader a déclaré que la polarisation et les divisions politiques sont apparues aux États-Unis lors des élections présidentielles de 2020 et qu'elles restent fortes. Les ministres iraniens et saoudiens des affaires étrangères se rencontrent en Chine demain jeudi. La rencontre entre Hossein Amir Abdollahian et Faisal bin Farhan intervient alors que les deux pays s'efforcent de définir les prochaines étapes de leur rapprochement diplomatique. Il s'agit de la première rencontre officielle entre les plus hauts diplomates iraniens et saoudiens depuis plus de 7 ans. Dans un autre geste d'apaisement hier, le premier vice-président iranien, Mohammad Mohber, a confirmé que le président iranien, Ibrahim Raisi, a accepté l'invitation du roi Salman ben Abdelaziz al-Saoud à se rendre en visite à Riyad. L'Iran rejette tout incident contre la sécurité de la ville centrale d'Isfahan. Un haut responsable local a rejeté les informations suggérant qu'un drone hostile a été intercepté par des systèmes de défense aérienne dans la ville pendant la nuit. Plus tôt, certains rapports affirmaient qu'un véhicule aérien sans pilote avait tenté de s'approcher d'une installation du ministère de la Défense à Isfahan avant d'être abattu. Le même responsable souligne que les unités militaires et de sécurité sont prêtes, comme toujours, à contrer, à neutraliser toute éventuelle menace. Des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et les forces israéliennes après que les soldats du régime ont attaqué des fidèles à la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds. Des centaines ont été blessés et arrêtés. Une dizaine de Palestiniens ont également été blessés lors de nouveaux affrontements mercredi matin. En réponse à l'agression israélienne contre le troisième lieu saint de l'islam, les combattants de la résistance palestinienne ont lancé plusieurs roquettes vers les territoires occupés. Des sirènes d'avertissement contre les attaques à la roquette ont été déclenchées dans plusieurs centres urbains israéliens. Israël a également mené des attaques de missiles sur la bande de Gaza. Rien n'a filtré sur d'éventuelles pertes en vie humaine. Sachez également que les condamnations affluent à propos de l'attaque du régime israélien contre les fidèles palestiniens en pleine prière à la mosquée Al-Aqsa. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a dénoncé l'agression comme faisant partie de la guerre de religion de Tel Aviv contre les valeurs sacrées des Palestiniens. Le mouvement du djihad islamique de la Palestine a également réagi, affirmant que le peuple palestinien devrait se mobiliser à défendre Al-Aqsa. L'Iran a également condamné avec véhémence l'attaque, appelant à une réaction immédiate du monde musulman et des instances internationales compétentes. La Ligue arabe a également condamné l'attaque israélienne contre le lieu saint et exhorté la fin des approches extrémistes qui contrôlent la politique du régime israélien, affirmant qu'elles conduisent à des affrontements généralisés avec les Palestiniens. La Ligue arabe annonce également une réunion plus tard dans la journée pour discuter du raid israélien en réponse à une demande d'urgence de la Jordanie. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'attaque contre Al-Aqsa montre la nature inhumaine d'Israël. La violente attaque contre les fidèles de la mosquée Al-Aqsa en plein mois de Ramadan révèle la nature inhumaine d'Israël, selon Téhéran. L'Iran a condamné l'attaque barbare des forces israéliennes contre des dizaines de fidèles palestiniens qui s'étaient rassemblés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, où ils accomplissaient pacifiquement les rituels du mois béni de Ramadan. Téhéran a souligné que ce raid violent témoignait de la nature inhumaine du régime de Tel Aviv. l'attaque sauvage de l'armée usurpatrice du régime sioniste contre les pèlerins et les fidèles palestiniens à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa a une fois de plus révélé au monde la nature criminelle et inhumaine du régime sioniste, a écrit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, sur son compte Twitter le mercredi 5 avril. Nous condamnons fermement ce crime commis par l'entité sioniste dans la mosquée Al-Aqsa. Il appartient au monde musulman, au peuple épris de liberté et aux organisations internationales responsables de prendre immédiatement position contre ce crime, a-t-il réaffirmé. Armés jusqu'aux dents, des dizaines de soldats israéliens ont fait irruption dans les cours de la mosquée Al-Aqsa mardi 4 avril au soir. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes dans la salle de prière Qibli, où des centaines d'hommes, de femmes, de personnes âgées et d'enfants passaient la nuit pour prier. Certains témoins oculaires ont déclaré que des balles en acier recouvertes de caoutchouc avaient également été tirées sur les fidèles. Les soldats israéliens ont ensuite battu les fidèles. Ils les ont attaqués avec des matraques et des fusils anti-émeutes. De nombreux Palestiniens ont été blessés et arrêtés par les troupes israéliennes. Des vidéos prises à l'intérieur de la mosquée ont montré des soldats israéliens frappant à plusieurs reprises des fidèles à coups de matraque alors qu'ils semblaient allongés sur le sol. Pendant ce temps, on entendait en arrière-plan des femmes et des enfants appeler à l'aide. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré avoir reçu plusieurs rapports faisant état de blessures à la mosquée d'Al-Aqsa, mais n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de victimes, les forces israéliennes continuant d'empêcher les médecins de soigner les blessés. Les médias locaux ont rapporté que des dizaines de blessés souffraient d'ecchymoses, de fractures et d'asphyxie dues à l'inhalation de gaz lacrymogènes. L'une des fidèles présentes sur les lieux a déclaré aux médias locaux que les femmes avaient finalement été libérées, mais que les hommes avaient été sévèrement battus et arrêtés. « Chacun d'entre eux a été sévèrement battu, tous les hommes », a-t-elle déploré. Le comité palestinien des affaires des détenus estime qu'au moins 400 personnes ont été arrêtées par les forces d'occupation. À la suite de l'incursion, les mosquées locales de la ville sainte de Rhodes ont appelé les Palestiniens par haut-parleur à y organiser un rassemblement de masse et à soutenir les fidèles qui ont été victimes des exactions de l'armée israélienne. Des centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues de la Cisjordanie occupée pour condamner l'agression et affronter les troupes israéliennes au point de contrôle et au poste militaire. En réponse à ce crime, les combattants de la résistance palestinienne, basés dans la bande de Gaza, ont tiré plusieurs roquettes sur les territoires occupés de la Palestine. Au moins une roquette a atterri à l'intérieur des territoires et a endommagé une usine de produits alimentaires. Aucune victime n'a été signalée, selon les médias israéliens. Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a réagi à l'offensive israélienne dans un communiqué. Ce qui se passe dans la mosquée Al-Aqsa est un crime sans précédent. Tout le monde doit prendre ses responsabilités, les Palestiniens comme les musulmans. Il a exhorté les Palestiniens de Cisjordanie et des territoires palestiniens occupés par Israël en 1948 à se diriger vers la mosquée Al-Aqsa pour protéger et défendre ce lieu saint. De son côté, Ziad Nahallah, chef du djihad islamique de la Palestine, appelle les Palestiniens à se préparer à affronter l'ennemi israélien. Les événements survenus à la mosquée Al-Aqsa représentent une menace pour nos lieux de culte sacrés. Il incombe au peuple palestinien de se préparer à une bataille décisive et imminente contre Israël, a-t-il réaffirmé dans un communiqué. Le mouvement Fatah a déclaré que ce qui s'était passé était dangereux et a averti que le régime d'occupation israélien en paierait le prix. Nabil Abu Rudaineh, porte-parole du président de l'autorité autonome palestinienne, a déclaré que les forces israéliennes avaient franchi les lignes rouges. Ce que le régime d'occupation fait en ce moment sur les lieux saints comme Al-Aqsa et l'attaque contre les fidèles est un exemple de la guerre féroce contre le peuple palestinien et les nations arabes. Et cela affectera l'ensemble de la région, a-t-il averti.
Bonjour à tous, bienvenue ici la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant la Syrie, les attaques permanentes de l'entité sioniste sur le territoire syrien qui a provoqué la mort de militaires iraniens. C'est le sujet du jour. Je vous propose d'abord pour faire le point un reportage qui vous résumera la situation de ces deux dernières semaines et par la suite nous ferons donc venir nos invités pour commencer et débuter le débat. Je vous propose donc maintenant notre reportage.
Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, CGRI, a déclaré qu'un de ses conseillers militaires iraniens blessé lors de la frappe aérienne de vendredi avait succombé à ses blessures, devenant ainsi la deuxième victime des récents raids israéliens contre la Syrie. Suite au décès du deuxième conseiller, identifié comme étant Mehrdad Mehrani, le CGRI a publié une déclaration dans laquelle il s'engageait à ce que, sans aucun doute, le régime sioniste factice et criminel recevra une réponse à son crime odieux. Selon l'agence de presse syrienne Sana, des avions de chasse israéliens sont entrés sur le territoire syrien depuis le nord du plateau du Golan occupé très tôt vendredi matin et ont ciblé une installation dans la banlieue de Damas. L'Iran a déployé ses conseillers militaires en Syrie à l'invitation du gouvernement syrien pour contribuer dans le combat contre les groupes terroristes. L'Iran souligne que l'incapacité de la communauté internationale à donner une réponse dissuasive a encouragé Israël à continuer de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc, tout d'abord, la venue de nos invités, tous deux juristes internationaux, nos experts du jour. Alors, notre premier invité étant M. André Chami. Bonjour, M. André Chami, ravi de vous avoir avec nous.
Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, ainsi qu'à mon confrère, Maître Develay.
Oui, vous l'aurez compris, donc notre deuxième invité étant M. Arnaud Develay, également juriste international, connaissant bien la situation en Syrie et en Russie, notre expert. Bonjour M. Maître André Develay.
Oui, c'est Arnaud Develay.
Arnaud, oui,
merci,
excusez-moi.
Bonjour à vous et bien sûr bonjour à Maître Chami.
Merci à vous deux. En tout cas, vous, il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était M. Develay la semaine dernière, on a parlé avec Mme Midani, donc de la situation syrienne, puisque les attaques durent depuis il y a deux semaines. Il y a eu notamment donc cette attaque dans l'aéroport de Damas, je rappelle, un aéroport qui était civil. Alors, nous n'avions pas, durant ce débat, parlé du fait que peut-être c'était les Iraniens qui étaient touchés, mais les Israéliens ont souvent indiqué que quand ils frappaient la Syrie, ils visaient très souvent donc la présence iranienne. Maître Arnaud Develay, est-ce que vous confirmez vous-même, ayant été en Syrie, le fait que l'entité sioniste aime viser donc ces conseillers militaires qui sont venus sous invitation syrienne?
Oui, oui, tout à fait. C'est un serpent de mer. Enfin, c'est une vieille marotte, hein, de toute façon. C'est d'autant plus maintenant prononcé puisque Netanyahou est de retour aux affaires. Et ce dernier a toujours eu l'obsession d'essayer de peindre l'Iran comme une puissance régionale expansionniste qui avait pour objectif affiché, selon lui, la destruction de son peuple. Alors, c'est comme ça un peu qu'il met un peu les choses en avant. Sans compter les présentations qu'il a pu faire à l'ONU avec toute la mise en scène qu'on lui connaît, avec ses pancartes. Et donc, Se sachant plus que jamais, c'est reflété par la situation au sein de l'entité sioniste actuellement concernant la réforme judiciaire qui permettrait quelque part de prendre le contrôle des procédures à son encontre et lui permettre d'échapper donc à toutes ces histoires qui le poursuivent depuis déjà quelques années. Ça lui permet de faire diversion en même temps et donc de refocaliser un peu l'opinion publique locale sur son objectif qui, je le répète principalement, est de confronter l'Iran, qu'il perçoit comme étant, selon lui, la menace numéro un. Et donc, si ça passe par le fait de pouvoir participer au bombardement des aéroports en Syrie et ce faisant empêchant bien sûr tout acheminement d'aide humanitaire, ça fait partie des dommages collatéraux.
Merci Maître Develay. Monsieur André Chami, alors d'un point de vue de droit international, on rappelle que la Syrie est un pays souverain, un pays avec donc une situation juridique, une situation administrative, avec un peuple. Le droit international dit quoi par rapport à ce genre d'attaque? Parce que quand on écoute ce que dit donc l'entité sioniste sur ces fameuses attaques, à ces opérations, il se donne le droit et le présente de telle manière que ce soit tout à fait légal. Mais que dit donc le droit international concernant ce genre d'attaque, notamment sur des sites civils?
Ah bah, je vous réponds par rapport à l'entité sioniste. L'entité sioniste, depuis son existence même, jusqu'à maintenant, a toujours été fait au détriment du droit international. C'est-à-dire le droit international et l'entité sioniste constituent l'un pour l'autre une exception. C'est-à-dire, si vous prenez le texte ou l'ensemble des traités internationaux, et notamment la charte de l'ONU, et tout ce que fait l'entité sioniste depuis son existence jusqu'à maintenant, évidemment, vous êtes systématiquement en contradiction avec le droit international. Bien pire encore, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout cela est balayé d'un revers de main par l'entité sioniste et par ses dirigeants. Et s'il n'y avait pas eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de veto américains concernant les décisions que le Conseil de sécurité devait prendre contre l'entité sioniste, évidemment, nous aurions au crédit de ce régime-là des centaines de condamnations et même on aurait dû avoir le recours, ce qu'on appelle au chapitre 7, c'est-à-dire le recours à la force pour faire en sorte que toutes ces exécutions soient arrêtées. Mais l'entité sioniste, comme le rappelait l'autre jour l'un des généraux de l'armée israélienne, sans l'entité, sans les États-Unis n'existerait pas, parce qu'il rappelait que sans les avions américains, ils n'existent pas, sans la protection politique, ils n'existent pas, sans la protection des missiles patriotes, ils n'existeraient pas, et ainsi de suite. C'est-à-dire aujourd'hui, sans la protection américaine, l'entité sioniste aurait tout simplement disparu de la carte, qu'on le dise clairement. Parce que l'entité sioniste, c'est une construction artificielle qui est fondée sur une théorie, un peuple qui est venu s'installer sur un territoire sans peuple, c'est-à-dire c'est comme si les Palestiniens n'existaient pas, et aujourd'hui c'est répété à profusion par son ministre des Finances, qui est considéré comme raciste, etc. Mais en réalité, c'est l'idéologie sioniste qui est raciste. Ça n'a rien à voir avec tel ministre ou tel ministre. Et aujourd'hui, les attaques menées contre la République islamique, la République syrienne, la République arabe syrienne, font partie de ces attaques contre le droit international. Et le Conseil de sécurité ne bouge pas, malgré toutes les plaintes qui ont été déposées par la Syrie contre ce régime sioniste. C'est-à-dire, c'est la démonstration, je dirais par A plus B, qu'il n'y a que la force qui prime avec ce régime-là. Si vous n'utilisez pas la force, si vous n'utilisez pas la dissuasion, eh ben, c'est comme un enfant gâté, il continuera de pousser, de pousser, de pousser. Et évidemment, il y aura lieu dorénavant, à mon sens, de créer ce qu'on appelle une dissuasion réelle par rapport à toute attaque. Je prends l'exemple, par exemple, du Hezbollah. À partir du moment où le Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a dit à l'entité sioniste, toute attaque
contre le territoire libanais sera, bien entendu, fera immédiatement l'objet d'une riposte, et bien, comme par hasard, il n'y a plus d'attaque directe militaire par l'antisioniste contre le Liban, que ce soit contre des personnalités ou contre le territoire ou contre même des institutions. Il y aura maintenant à établir le même rapport de force du côté syrien. Évidemment, la Syrie se rétablit. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'Iran doit déplacer, entre guillemets, sa puissance sur le territoire syrien pour justement faire face à ce type d'attaque? Parce que opposer ce qu'on appelle une dissuasion, ça veut dire mettre sa force dans la balance. C'est une question tactique, mais également stratégique, c'est-à-dire jusqu'où l'Iran doit aller dans la confrontation avec l'antisioniste. Est-ce qu'on continue comme cela se fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un militaire contre un militaire, une installation contre une installation, une perturbation informatique contre une perturbation informatique, ou bien il y a une puissance de feu beaucoup plus importante qui rentre en ligne de compte, et là, la configuration même du conflit peut être modifiée, et nous sommes, à mon avis, sur cette espèce de ligne de crête. Est-ce qu'on bascule d'un côté ou on reste dans ce rapport de confrontation que j'appellerais basse intensité, et tôt ou tard, si les provocations israéliennes ne devaient pas s'arrêter, eh ben, on basculera vers un conflit d'haute intensité, c'est-à-dire il y aura une mise en place d'un rapport de force beaucoup plus important et avec des ripostes nettement plus marquantes pour l'antisioniste.
Merci, Maître André Chami. Alors, nous avions reçu donc Morgan Lotz il y a quelques semaines, donc iranologue, également expert en droit international, qui avait indiqué que très souvent, la plupart du temps, l'Iran respectait le droit international et il n'y avait pas de violation de la part de l'Iran dans toutes ses actions ici au Moyen-Orient, contrairement à ce que dit donc les Américains concernant le fait que l'Iran est un danger pour la région. Maître Arnaud Develé, est-ce que vous pensez que donc la CGRI, donc, qui est l'entité armée de l'Iran, se pourrait avoir le droit donc d'intervenir, étant donné que ce sont des militaires, donc c'est des conseillers militaires, encore une fois on le répète, sous invitation de l'État syrien, et là des attaques sont faites en Syrie, est-ce que la CGRI a le droit donc de riposter?
Absolument, enfin, ça c'est un peu la réponse courte. Maintenant, ça dépendra du contexte. De toute évidence, dans le contexte de ce qui se passe en Syrie et leur mission dans ce pays, il ne peut pas y avoir de réponse unilatérale, puisqu'il convient de coordonner toute action, bien sûr, avec le gouvernement syrien. Et au-delà de ça, je pense aussi avec l'allié russe, parce qu'il y a forcément des retombées régionales et internationales quand on évoque l'idée de représailles contre l'entité sioniste. Maintenant, l'Iran a toujours eu coutume, et je dirais même tous les composants de l'axe de la résistance, de répondre, si je puis dire, à toute attaque contre leurs intérêts, selon leurs conditions, au moment choisi et dans les circonstances qui leur sied. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, ces deux assassinats seront bien sûr vengés. Reste à savoir maintenant dans quel contexte, mais on peut déjà imaginer que ce sera dans un contexte selon lequel l'antisioniste s'y attendra le moins.
Merci, Maître Develé. Alors, il y a eu des propos tenus par des diplomates russes qui ne sont pas cités, c'est-à-dire dont le nom n'a pas été cité, où on leur a posé la question de pourquoi la Russie n'intervenait pas face à ces attaques en Syrie. Les propos des diplomates ont été qu'en fait, il serait positif pour eux que l'Iran s'engage plus en Syrie, donc il laisse aller les erreurs israéliennes pour permettre à ce que l'Iran s'engage plus en Syrie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce genre de propos? Est-ce que c'est volontaire de la part des Russes, Maître Develé, de la part des Russes de laisser l'Iran être atteint comme ça alors qu'ils sont également présents, hein? On rappelle qu'il y a même une base militaire en Syrie qui est russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? C'est positif pour la Russie que l'Iran s'engage plus en Syrie?
Bah écoutez, il faut déjà voir, selon Damas, le gouvernement syrien, en quoi faut imaginer qu'ils soient plus impliqués qu'ils ne l'ont déjà été. Enfin, ils ont après tout fourni soutien militaire, logistique, et on parle bien des conseillers militaires, de telle sorte que l'organisation terroriste Daesh a été vaincue. Donc, c'est difficile d'imaginer au-delà de ça ce qui pourrait être, si je puis dire, entrepris. Maintenant, eu égard aux déclarations des diplomates russes, bon, il faudrait certainement les lire dans leur contexte, mais on peut penser que les Russes, de toute façon, eux, ne seront pas dans l'absolu en Syrie pour faire la guerre aux Israéliens. Donc, ils ont une mission qui est bien, bien délimitée, et je pense que ce faisant, en partant du principe que l'Iran est parfaitement capable d'assurer des missions qui porteraient sur un engagement accru vis-à-vis de l'entité sioniste, ça laisse entendre que c'est peut-être un partage des tâches, je dirais, au niveau de la région. Donc on peut penser que c'est un peu comme ça. Et je pense que la déclaration elle-même, d'ailleurs, est qualitativement différente de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Donc ça laisse entendre que quelque part, à Moscou, on commence un peu à être un peu las de ces opérations de bombardement militaire israélienne sur la Syrie, ces agressions continues, sachant qu'en toile de fond, on assiste quand même à un redécoupage des alliances et des disputes dans la région à une vitesse assez impressionnante, et que bientôt les États-Unis et l'entité sioniste seront complètement isolés. Donc je pense que tout ça s'articule en fonction d'un temps long, d'un temps plus court, et de petites déclarations qualitatives un peu différentes de ce qu'on a pu entendre, mais qui ne sont pas anodines et ne sont pas prononcées par hasard. Merci. Ça laisse entendre que quelque part... Ouais.
Merci, Maître Develet. Maître André Chéry, vous êtes d'accord avec les propos tenus par Maître Develet, qui a quand même un avantage territorial, mais vous-même, quand vous voyez le droit international, le mouvement qui se fait là actuellement dans la région et également en Europe, est-ce que vous vous penchez sur le fait que la Russie pousserait un peu l'Iran à s'impliquer plus en Syrie, qui, je répète, pour ceux qui ne connaîtraient pas la situation iranienne en Syrie, a aidé, grâce à des conseillers militaires, la Syrie de se défaire des terroristes qui est également terroriste pour l'Union européenne, hein, parce qu'on parle de Daesh, on parle d'Al-Qaïda, donc des ennemis déclarés de l'Occident. Donc vous êtes d'accord sur le fait que cet engagement est voulu par la Russie ?
Depuis le début, si j'ose dire, de la présence iranienne en Syrie, évidemment, la Russie avait donné un feu vert. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et il y a mieux, moi je me rappellerai de la visite de feu général Soleimani, le martyr, pour demander l'appui aérien à l'époque des forces russes. Parce que, justement, l'Iran ne voulait pas s'engager directement dans ce conflit-là. Et évidemment, les troupes au sol avaient besoin d'un appui aérien. Et le général Soleimani a été demandé l'appui aérien des Russes. Et à partir de cette date-là, je dirais, le sort de toute la guerre en Syrie a changé. Puisque jusqu'à cette date-là, la République syrienne était privée de ses moyens militaires parce qu'elle disposait de l'aviation, mais elle ne disposait plus des radars nécessaires parce que vous ne pouvez pas survoler sans avoir les moyens techniques au sol. Et évidemment, il y a eu une coopération entre quatre forces sur le terrain, pour ne pas dire d'autres forces. Il y a eu les Iraniens, les Russes, les Syriens et le Hezbollah. Il y a eu une coopération globale et évidemment, chacun a été assigné à une mission et avec la protection qui était assurée par les uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire les Russes avaient même donné un avertissement aux Israéliens, si jamais ils devaient frapper à un endroit où des forces russes pouvaient être présentes, bien entendu, la Russie donnerait à cette affaire les suites qui s'imposent, c'est-à-dire elle pouvait à ce moment-là se donner les moyens d'abattre les avions qui risqueraient d'attaquer ces positions-là, même si des soldats russes n'étaient pas touchés, mais à partir du moment où il pouvait y avoir des soldats russes ou des militaires russes dans les parages, les Israéliens étaient interdits, si j'ose dire, de survol. Sauf que les Israéliens essaient toujours de jouer, je dirais, avec le feu, c'est-à-dire ils essaient toujours de trouver la faille dans les avertissements, et à chaque fois ils trouvent les endroits où il n'y avait pas, où il n'y a pas de Russes pour essayer d'attaquer. Maintenant, la question se pose par rapport à Hezbollah et par rapport à la présence iranienne. Est-ce que la dissuasion, encore une fois, va monter d'un cran? Moi, je pense que ça me paraît nécessaire. Il y a aussi, moi, je m'interroge sur le terrain militaire. Est-ce que pour l'instant, on ne veut pas sortir tous les moyens dont dispose maintenant la coalition, si j'ose dire, sur place, c'est-à-dire Iran, Syrie et le Hezbollah, notamment en moyens, je dirais, qui pourraient modifier totalement le sens du conflit à travers des moyens, notamment en missiles. Est-ce que pour l'instant, il y a des cachotteries, si j'ose dire, utilisées pour avoir l'effet de surprise en cas de grand conflit? Moi, je m'interroge et je ne l'exclus pas. Je ne suis pas militaire, mais je m'interroge sur cette question-là. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas trop avancer sur ce terrain-là. Il vaut mieux que ce soit les militaires iraniens qui répondent. Et bien entendu, ils connaissent ce qu'on appelle les règles d'engagement dans ce type de conflit. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils doivent aller. Aujourd'hui, le rapport de force, manifestement, doit monter d'un cran. La question, c'est jusqu'où on peut aller et quel type d'armes on peut sortir. Voilà la question, à mon avis, qui se pose. Alors, et sur la question du droit international, il y a incontestablement des infractions à caractère multiple du côté de l'antisioniste à l'encontre de la République arabe syrienne, mais à l'encontre aussi de ce qu'on appelle les forces subsidiaires, c'est-à-dire qui viennent aider la République syrienne face à la guerre mondiale contre ce pays-là.
Alors, il y a également le fait qu'il y ait des Iraniens, donc les militaires iraniens sont en formation en Russie actuellement. Donc, je reviens vers Monsieur Maître Develet. Je parle notamment au niveau de l'aviation iranienne. Ils sont en formation à l'heure actuelle en Russie pour suivre donc des stages concernant dans les avions russes, puisque la Russie a accepté de vendre des modèles d'aviation à l'Iran. Est-ce qu'on peut s'attendre également à ce que, au-delà que ce soit les Russes qui soient sur le terrain syrien d'un point de vue de l'aviation, ça serait entre les drones iraniens et l'aviation iranienne que ça va se jouer, Maître Develet? Est-ce possible d'envisager les choses comme ça?
Moi, je pense qu'il faut raison garder, enfin, dans un contexte où l'interpénétrabilité des deux pays par rapport à la coopération militaire est assez établie. Je pense que c'est simplement un prêté pour un rendu. On a pu voir qu'il y avait une certaine expertise iranienne qui avait été intégrée dans le système, dans le théâtre ukrainien, mais on a pu voir aussi que, à travers les documents qui ont pu être signés récemment sur le renforcement de la coopération militaire et les ventes de moyens, si je puis dire, récents, modernes, militaires russes, donc à la République islamique d'Iran, ces programmes d'entraînement sont simplement, si je puis dire, un corollaire des contrats qui ont été signés. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que cette synergie est porteuse d'un partenariat qui n'est pas un compact militaire au sens classique, mais qui permettra certainement, au cas où les circonstances l'exigeraient, encore une fois, une synergie, une interopérabilité. On l'a encore vu récemment avec les exercices maritimes, qui d'ailleurs impliquaient aussi la Chine, où de plus en plus les armées de ces trois pays, qui sont quand même les trois pays principaux qui se dressent devant Washington, et on peut penser dans ce contexte-là que c'est simplement un renforcement, encore une fois, un approfondissement des relations synergétiques entre l'armée russe et l'armée iranienne. Est-ce que ça aura des conséquences directes après sur tel ou tel théâtre d'opération? On peut le penser, mais c'est encore une fois en fonction des circonstances et en fonction de, comment dirais-je, des impératifs qui peuvent surgir.
Alors, Maître Develet, Maître André Chamy, je vous remercie de votre participation. C'est là que se finit, donc sur ces mots, que se finisse notre débat. Je remercie donc nos deux experts pour leur expertise, que vous pourrez donc suivre sur notre site internet ainsi que sous nos plateformes si vous voulez voir ou revoir l'émission. Je vous remercie, je vous dis donc au revoir et à bientôt pour un autre sujet du débat.
Ici le Moyen-Orient.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Nous voici avec un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a lancé dimanche un avertissement à Tel Aviv promettant de riposter la mort en martyr de deux de ses conseillers militaires en Syrie lors d'une frappe aérienne israélienne contre Damas, capitale syrienne. Plus tôt dans la journée, la radio-télévision iranienne a rapporté qu'un conseiller militaire du CGRI est décédé des suites de ses blessures après une frappe aérienne israélienne vendredi 31 mars près de la capitale syrienne Damas, devenant la deuxième victime de l'agression israélienne. Suite au décès du deuxième conseiller, identifié comme étant Merdad Mehrani, le CGRI a publié un communiqué dans lequel il a réaffirmé que le régime factice sioniste recevrait indubitablement la réponse de ce crime odieux. La frappe sur la banlieue de Damas, la sixième contre les régions syriennes depuis début mars, avait tué Milad Heydari, conseiller du CGRI, ce dernier ayant émis un avertissement similaire après avoir confirmé la mort en martyr de Heydari. Selon l'agence de presse syrienne Sana, des avions de chasse israéliens ont touché le territoire syrien depuis le nord du plateau du Golan occupé, très tôt vendredi matin, à 0h17, heure locale. Ils ont ciblé une installation dans la banlieue de Damas. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné les attaques du régime israélien à l'aube de jeudi et vendredi sur certains points de Damas et de ses environs. Il a déploré l'incapacité de la communauté internationale à adopter des mesures appropriées et dissuasives contre les actes d'agression du régime de Tel Aviv à l'encontre de la Syrie. L'Iran maintient une mission consultative en Syrie pour faire face au terrorisme soutenu par l'étranger. En 2017, la Syrie a réussi à vaincre le groupe terroriste Daesh à l'aide des conseillers militaires iraniens. Les unités navales de l'armée de la République islamique d'Iran ont identifié un avion espion américain et lui ont envoyé des mises en garde après son passage des frontières maritimes iraniennes près de la mer d'Oman. Le Bureau des relations publiques de la marine a déclaré dimanche 2 avril qu'un avion de reconnaissance EP-3E de la marine américaine a pénétré les frontières iraniennes à proximité de la mer d'Oman. La marine iranienne lui a aussi envoyé des avertissements, l'empêchant d'entrer dans l'espace aérien du pays sans autorisation. Après avoir reçu le message d'avertissement, l'avion a quitté la zone et a repris la voie aérienne internationale, a-t-il poursuivi. Le EP-3E, doté de 4 turbopropulseurs, est fabriqué par l'avionneur américain Lockheed Martin. Il est équipé de toutes sortes de systèmes de guerre électroniques ainsi que des systèmes de collecte de signaux et d'écoute téléphonique. Les marines des États-Unis et du Japon sont les seuls utilisateurs de cet avion de reconnaissance. Les forces armées iraniennes ont averti à de nombreuses reprises qu'elles ne permettraient pas aux ennemis de saper la sécurité du peuple et du pays et continueraient de surveiller de près les mouvements des ennemis, en particulier des États-Unis et du régime sioniste. Téhéran a clairement indiqué à plusieurs reprises que ses capacités militaires locales sont de vocation défensive et dissuasive. La République islamique d'Iran a également exhorté les États riverains du Golfe Persique à cesser de compter sur des puissances étrangères pour leur sécurité, la sécurité régionale ne pouvant être assurée que par leurs propres moyens. L'Arabie saoudite a l'intention d'inviter le président syrien Bachar el-Assad au prochain sommet de la Ligue arabe qui se tiendra le 19 mai 2023 à Riyad, a fait savoir dimanche 2 avril l'agence de presse Reuters. Selon le rapport de Reuters, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal Ben Farhan al-Saoud, se rendra à Damas, la capitale syrienne, dans le but de remettre au président Assad une invitation officielle à participer à ce sommet prévu le 19 mai. Auparavant, les sources d'information ont annoncé que l'Arabie saoudite et la Syrie étaient parvenues à un accord pour rouvrir leurs ambassades après le mois de Ramadan. En ce qui concerne le début de la normalisation des relations entre Riyad et Damas, le ministère saoudien des Affaires étrangères a confirmé en mars la tenue de pourparlers avec le ministère syrien des Affaires étrangères au sujet d'une reprise des services consulaires. En 2012, l'Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec la Syrie et a fermé son consulat à Damas. Plusieurs pays arabes ont demandé le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Son adhésion a été suspendue en 2011 en raison de la crise dans le pays déchiré par la guerre. Le peuple palestinien a commémoré jeudi le 47e anniversaire de la Journée de la Terre, célébrée le 30 mars de chaque année, en hommage à la lutte contre l'oppression des colons israéliens et à l'appel à la liberté, à la justice et à l'égalité. Quelques milliers de personnes ont manifesté jeudi dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Rotsest pour commémorer la Journée de la Terre qui a été déclarée en souvenir des événements du 30 mars 1976 lorsque la population palestinienne s'est révoltée contre la décision de l'entité sioniste de confisquer de grandes quantités de terres palestiniennes. Selon des sources d'information, des centaines de Palestiniens ont défilé sur leurs terres près de la clôture à l'est de la ville de Gaza pour marquer la Journée de la Terre en portant des drapeaux palestiniens et en escandant leur droit au retour sur leurs terres garanties par la communauté internationale. Les sources ont ajouté que l'armée israélienne a tiré de nombreuses balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Des sources médicales ont déclaré que 5 Palestiniens ont été blessés, dont 3 ont reçu des balles de l'armée israélienne. Elles ont ajouté qu'au moins 100 Palestiniens souffraient des effets graves de l'inhalation de gaz lacrymogène. La Journée de la Terre palestinienne fait référence aux événements de mars 1976, lorsque 6 citoyens palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés par l'armée israélienne alors qu'ils manifestaient contre la confiscation par Israël de leurs terres dans la région de Galilée. Ce jour-là, les Palestiniens, appelés Arabes israéliens par Israël, se sont déclarés partie prenante du peuple palestinien et de sa lutte. Le principal problème de notre lutte contre le régime sioniste était et sera la terre, et nous souffrons toujours de politiques racistes dans tout ce qui concerne la terre et le logement, a déclaré l'un des organisateurs des manifestations. La lutte pour la terre n'a pas cessé. En effet, le conflit israélien... La lutte pour la terre n'a pas cessé. En effet, le conflit palestinien avec Israël et le mouvement sioniste tout au long de l'histoire a été centré sur la terre, a déclaré l'historien Jani Mansour, évoquant l'importance de l'héritage de la Journée de la Terre. Des groupes de résistance palestiniens ont déclaré dans un communiqué commun que la Journée de la Terre constitue un choc historique pour l'entité sioniste. Les Nations Unies ont appelé à la libération immédiate et inconditionnelle du principal militant pro-démocratie de Bahreïn, Najib Fatil, et à l'ouverture d'enquêtes sur les tortures qu'il aurait subies. Dans un rapport, le groupe de travail de l'ONU sur la détention. Dans un rapport, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire a déclaré que le régime des Ali Khalifa n'aurait jamais dû arrêter l'homme de 48 ans. L'ONU a déclaré qu'il n'y avait aucune base légale pour justifier l'arrestation de Fatil et que dès sa libération, les autorités bahreïniennes devraient enquêter sur sa détention arbitraire et ses allégations de torture. Le militant pro-démocratie aurait été sévèrement torturé durant plusieurs jours, suite à quoi il aurait perdu connaissance et aurait été déjà hospitalisé à 2 reprises. Fatil a déclaré qu'il avait sous la menace signé des papiers qu'il n'avait pas été autorisé à lire. En 2013, il a été condamné dans 2 grands procès qui ont été critiqués par des experts de l'ONU pour ne pas avoir respecté les normes internationales applicables en la matière. Fatil, aujourd'hui âgé de 48 ans, a été détenu à la prison de Dho au cours de la dernière décennie. Il dit avoir été soumis à des tortures et à une négligence médicale continue. Saïd Al-Wadaï, directeur du plaidoyer auprès de l'Institut Bahreïni pour les droits et la démocratie basé au Royaume-Uni, qui a déposé la plainte à l'origine de l'enquête, a déclaré que les conclusions de l'ONU étaient les meilleures que nous puissions espérer. Vous avez un organe reconnaissable qui a examiné notre demande et celle du gouvernement et qui a émis une opinion. Et cette opinion est extrêmement en faveur du prisonnier, a-t-il déclaré. Al-Wadaï a également souligné les problèmes persistants auxquels Fatil est confronté en prison, notamment une liste de problèmes de santé nécessitant un traitement médical urgent que les autorités pénitentiaires lui refusent depuis plusieurs années. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Ici, le Moyen-Orient. Thank you.